France Musique.
Émilie Munera, Les grands entretiens. France Musique.
Je suis Alexandre Tarot, pianiste, insomniaque. Et je n'ai pas d'âge.
On a parlé hier de votre enfance, Alexandre Tarot, de vos premiers pas heureux au conservatoire du 14e arrondissement. Vient ensuite le conservatoire de Paris. Vous avez 14 ans et ces années vont être bien plus difficiles.
Elles étaient faciles et pas faciles à la fois. J'étais heureux d'être là parce qu'il y avait l'émulation, la concurrence aussi qui faisait qu'on travaillait tous comme des fous et puis on voulait tous être Rubinstein. En même temps, je ne m'entendais pas très bien avec mes professeurs parce que j'aimais pas qu'on m'oblige à faire des choses. Avec Germaine Mounier, c'était merveilleux et très dur à la fois. Très dur parce qu'elle était autoritaire, parce qu'elle me demandait souvent, enfin c'est le souvenir que j'en ai, de l'imiter. Et on ne peut pas imiter un professeur. Un professeur doit faire en sorte que l'élève devienne son propre professeur et qu'il développe son propre jeu. Et finalement, avec le recul, j'en ai la certitude aujourd'hui, c'est en sortant du conservatoire, quand je me suis retrouvé seul face au piano, à ses œuvres, à ses compositeurs, que j'ai trouvé ma voix, que j'ai trouvé mon son, ma technique, mon propre désir de jouer, et pas celui de mes professeurs. Donc Germaine Mounier était dure de ce point de vue-là. En même temps, c'était une femme qui était souvent joyeuse et bonne vivante. Elle nous obligeait à écouter les cours des autres, alors c'était parfois un peu rébarbatif, un peu ennuyeux, mais c'était, je crois, à l'époque, la seule classe de piano où nous étions tous obligés d'assister aux cours des autres. Et ça nous donnait beaucoup d'idées, ça nous inspirait. Et puis, par ces cours communs, entre guillemets, on se connaissait mieux. Donc j'avais beaucoup d'amis pianistes. Alors au conservatoire, j'ai appris tout ça. J'ai appris à vouloir plaire, j'ai appris à vouloir partir du conservatoire. J'ai appris à comprendre que ma vie, c'était la scène et qu'il fallait que ça aille vite maintenant. Et puis j'ai appris la peur. J'ai appris la peur par les concours, par mes professeurs. Mais attention, j'avais des professeurs merveilleux. Il y avait Germaine Mounier, bon, j'ai des bons et des mauvais souvenirs avec elle, mais je n'oublie pas les bons souvenirs. Puis il y avait la classe de musique de chambre avec Geneviève Joie, alors là, je pense que tous les gens qui l'ont croisée ou qui ont entendu parler d'elle savent que c'était un être hors du commun. Hein, qui était. Alors elle nous sortait un verre de whisky et des cigares, c'est incroyable, j'étais mineur, elle me faisait fumer le cigare. Mais c'était de la musique. Son cigare m'apprenait la musique. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais avec un verre de whisky à 16 ans dans la classe de Madame Joie, il y avait de la joie. Voilà. On parlait, on riait. Elle avait des éclats de rire tonitruants qui faisaient bouger les murs. On jouait peu. Il n'y avait pas beaucoup de musique au clavier, mais on parlait musique, on vivait la musique. Ça m'apprenait peut-être plus la musique que dans ma classe de piano. Donc vous voyez, je retire du conservatoire des bonnes choses et des mauvaises choses.
Après le conservatoire, il y a eu une période assez difficile pour vous, Alexandre Tarot. Donc on a parlé de vos période de formation. Il y a eu après une période de 10 ans à peu près, où vous n'aviez plus de professeur, où la carrière ne décollait pas encore forcément, et où vous vous êtes retrouvé seul à travailler.
Oui, j'habitais Paris, toujours ce Paris auquel j'étais très attaché, auquel je suis toujours attaché. Et c'était difficile parce que je n'avais personne autour de moi.
Plus de professeur ?
Ouais, plus de professeur, plus vraiment de famille. C'était une période où je m'entendais pas très bien avec ma famille. Des amis, certes, hein, des amis qui mouraient. J'ai eu des deuils forts, intenses, douloureux, entre 20 et 25 ans. Et donc, c'était aussi c'était des pertes, des éloignements, mais qui ont forgé mon jeu, qui l'ont façonné, qui l'ont... Alors, ces années difficiles, elles sont... Je suis un optimiste au fond de moi, donc je vois toujours le bon et le mauvais côté des choses. C'était une période très bénéfique, où j'ai travaillé pour moi-même. D'abord, étant face à mon piano, que j'appelais Bucéphale, du nom du cheval d'Alexandre le Grand. Je l'aimais, mon piano, Bösendorfer, demi-queue. J'étais tout le temps avec lui, tout le temps sur lui. Je le scrutais dans les moindres recoins. J'aimais, il était grand ouvert dans mon studio, rue Saint-Antoine, et je l'admirais. Un piano, c'est vraiment un compagnon de vie. Enfin, ça prend une grande place, surtout si vous avez un petit appartement, et ça vous parle. Un piano, ça vous parle, par son silence, par sa présence. Ça pèse 500 tonnes, c'est pas rien, un piano.
Il n'est plus là, le piano qui vous parle,
il
alors.
Est plus là, mais parce que il a fallu qu'on se sépare.
Avec votre piano.
Mais à l'époque, il y a aussi le vernis noir des pianos, c'est une sorte de miroir aussi. Un miroir vous parle. Et puis ça a plein de mystères. Un piano, ça renferme. C'est tout un monde. Alors je l'aimais, mon Bucéphale, et on discutait. Je déchiffrais beaucoup de musique parce que la paresse dont je vous ai parlé, la paresse de l'enfance, de mon enfance, m'a permis de développer des facultés de déchiffrage. Je déchiffrais très facilement encore aujourd'hui, moins parce qu'avec l'âge, les choses se font moins facilement, mais je pouvais déchiffrer quasiment n'importe quoi, n'importe quelle partition. Ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, ma mémoire était déjà à l'époque très très faible et j'oubliais vite. J'ai eu mes premiers trous de mémoire très jeune. Donc, avec Bucéphale, je déchiffrais de la musique, j'improvisais, je composais. Et cette période difficile, sans concert, a donné de la place à autre chose. D'abord, la musique de chambre, parce que j'aimais ça. Et puis, je faisais de la musique dans mon studio, de la musique de chambre, mais aussi ses amis qui étaient, je ne sais pas, Jean-Marc Philips, Henri Desmarquettes, beaucoup de chanteurs qui m'apprenaient beaucoup de choses. Entre parenthèses, un chanteur est un extraordinaire professeur pour un pianiste, une grande écoute. Eh bien, ces musiciens-là m'offraient des concerts parce que j'allais les accompagner. Parfois, c'était dans des lieux vraiment minuscules, mais je m'en fichais. Ce que je voulais, c'était vivre le métier de scène. Restaurant qui s'appelait le Madigan, à quelques rues du conservatoire de la rue de Madrid. Et ce restaurant offrait aux, clients le soir, après dîner, donc après le bruit des verres et des assiettes, un concert en deux parties d'un quart d'heure, 20 minutes, donc ça faisait à peu près 40 minutes de musique tous les soirs. Il y avait beaucoup de jeunes, et j'y allais là, j'y allais tout le temps. J'ai rodé plein de programmes, j'ai joué avec plein de gens différents. Parfois, il n'y avait qu'une table, donc j'avais un public de 4 personnes, mais j'étais heureux.
Et sans avoir peur de la faute, comme au conservatoire.
J'avais encore peur. Et puis, le concert était sacré. C'est un moment de ma vie où j'ai voulu que l'espace du concert soit le lieu le plus sacré de ma vie. La scène. Et avoir peur, c'est pas avoir peur de la scène. La scène est mon ami, mais avoir peur d'y aller, avoir peur comme un rendez-vous amoureux quand on a le cœur qui bat et que... On n'en peut plus, on veut y aller, on ne veut pas, on veut. Et puis tout d'un coup, on se jette, que ce soit au Madigan devant 4 personnes qui finissent leur gâteau au chocolat ou au Carnegie Hall devant 3000 personnes. C'est la même peur, la même couleur, la même appréhension, le même désir, mais les mêmes joies qui sont tellement fortes. Ces joies sont tellement fortes que la vie à côté semble fade.
C'est hors du temps, presque, comme moment.
Hors du temps, hors du commun. Et puis, quand on a vécu ça, et ça me venait, je vous en ai parlé plus tôt, mais de mes premières scènes, donc avec mes parents, enfants, quand on a ça dans le sang, c'est pour toujours. Et voilà. Et là, vraiment, c'était vers 20-25 ans, c'était clair pour moi. Là, la scène était un autel, dans le sens religieux du terme. C'est vraiment là que je disais tout, que je me mettais à nu, que j'essayais d'offrir ce que je pouvais offrir de plus beau, et que j'étais, je ne suis pas religieux, mais tel un prêtre, que j'étais un passeur de musique. Donc aussi, que je n'étais pas véritablement mis en lumière. C'est étrange le concert, hein. Les gens vous applaudissent, mais vous jouez la musique de Beethoven. C'est être pianiste, c'est être très présent, mais jouer sur la transparence aussi. Servir une musique. Et il y avait des expériences très intéressantes justement sur la présence, non-présence. C'était au musée d'Orsay. J'accompagnais des films muets. J'avais pas d'argent.
Comme vous,
j'avais
le grand-père.
Pas de concert. Voilà, comme mon grand-père. J'improvisais beaucoup, donc c'était assez facile pour moi. Et ça m'a appris beaucoup de choses, d'être dans le noir, jouer dans le noir, à peine éclairé par le reflet de l'écran. J'aimais ça, et c'était aussi de la musique de chambre. Sauf qu'il y avait une douleur qui apparaissait au dernier carton où il y avait marqué « the end » ou « fin ». Où là, ces acteurs avec lesquels j'avais joué, que je connaissais bien pour avoir travaillé pendant des heures avant... cette équipe, cette troupe de théâtre, finalement, s'évaporait. Et je rentrais à peine applaudi par la salle, parce que j'étais pas là pour être applaudi. Je rentrais chez moi et j'étais triste parce qu'ils étaient partis.
Émilie Munera, Les Grands Entretiens, France Musique.
Donc déjà, vous imaginiez peut-être avoir plus et faire plus et jouer pour plus de personnes, plus de public, ou finalement on a l'impression que c'est une période qui ne vous a pas déplu. Vous dites d'ailleurs que ça vous a beaucoup apporté. Est-ce que vous auriez pu pratiquement rester là dans une période comme ça, en jouant pour des films muets, en jouant pour des amis, en jouant dans des concerts, une vie beaucoup plus itinérante qu'une vie de pianiste classique?
Je pense que c'était une vie plus confortable. Et oui,
plus bohème, peut-être aussi.
Oui, enfin, je ne voulais pas jouer dans les plus grandes salles du monde. Sauf qu'à partir du moment...
Vous n'étiez pas aigri de ne pas encore y arriver, c'est ça? Vous
si, si,
pas...
bien sûr. Je ne comprenais pas pourquoi des dizaines de petits camarades avaient beaucoup de concerts, enfin, par rapport à moi, et pourquoi, moi, ce que je faisais n'avait aucun écho. Alors, évidemment, les journalistes n'allaient pas se déplacer pour écouter un accompagnement de films muets dans les sous-sols du musée d'Orsay, mais en même temps, j'avais cette chance d'enregistrer des disques. Et le disque, j'ai découvert ça très tôt, à 19 ans, pour des petits labels, mais que je remercie aujourd'hui, parce qu'ils ont été essentiels dans mon parcours de musicien. J'ai enregistré... des compositeurs, parfois des compositeurs qui n'étaient pas très connus, mais justement, je me disais, je suis jeune, je ne vais pas commencer par enregistrer soit de Beethoven. Je peux être utile. Je voulais être utile. Oui, je pense qu'on peut être utile en enregistrant des œuvres peu connues de Poulenc ou de Chabrier.
Le premier disque, Alexandre Tarot, c'était un disque Ravel.
Qui n'est jamais sorti.
Ouais,
et c'était un disque... faudrait que je le réécoute, mais je ne réécoute pas mes disques. Donc c'est... Mais avec le recul, maintenant, je pourrais peut-être avoir du plaisir. J'en ai quelques exemplaires là dans mon appartement. Un disque enregistré, aujourd'hui on l'appelle la salle colonne, où j'ai enregistré d'ailleurs beaucoup de mes derniers disques. À l'époque, on l'appelait le studio Blanqui. Auparavant, studio Philips, où Barbara, Brel, Claude François ont enregistré. C'était devenu un studio de musique classique dans les années, je pense, 70, 80 peut-être. Et en tout cas, à l'époque où j'ai enregistré mon premier disque. Et j'ai découvert un monde. J'ai découvert mon deuxième métier, finalement. Mon premier ou mon deuxième métier. Pianiste de scène, pianiste de studio. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, il y a des pianistes qui ont été dans l'histoire, des pianistes qui étaient vraiment pas bons au disque et très bons sur scène, et vice-versa. C'est une autre manière de jouer, une autre manière de s'adresser à l'auditeur. Et avec Georges Kisseloff, grand ingénieur du son et directeur artistique, qui était très âgé, il avait une longue barbe qui traînait par terre, et là j'exagère un peu, elle traînait sur ses genoux. Il avait un gros ventre et il s'endormait pendant les prises. Parfois même, quand on réécoutait une prise dans la cabine, alors j'étais très anxieux, il appuyait sur play, il commençait à parler et il s'endormait pendant sa phrase. Voilà, de beaux souvenirs, mais le disque n'est pas sorti. Puis ensuite j'ai enregistré d'autres disques, mais c'était vraiment... tous mes enregistrements de disques ont été des expériences très fortes, comme, d'une certaine manière, à chaque fois, une nouvelle étape dans ma vie.
Ils sont nombreux, hein, ces disques. En plus, et on sent que, enfin, et c'est rare, hein, je trouve, chez un pianiste, on a l'impression que chaque disque découle du précédent. Chez vous, qui a presque, c'est comme s'il y avait un plan de carrière sur le disque. Vous dites, allez, j'ai 60 ans, voilà ce que je vais pouvoir enregistrer, par exemple. C'est assez amusant de voir à quel point vos enregistrements et par la suite sont cohérents sur le répertoire et ce qui vous amène d'un répertoire à un autre.
Pendant ces années difficiles où j'enregistrais quand même des disques, non, pour des petits labels, mais enfin, grand par la qualité, non, je pense à Naïf quand même, c'était pas n'importe quoi, enfin qui s'appelait Ovidis à l'époque, à Arion qui faisait un très beau travail, toute petite maison de disques, mais j'étais tellement heureux d'enregistrer. C'était des moments, toute l'année je travaillais en direction de ces 3 jours d'enregistrement, parfois 2 jours parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour louer un piano pendant plus de 2 jours. Et pendant cette période-là, j'ai enregistré certes un disque Grieg et puis aussi un disque Schubert, mais j'allais plutôt, j'avais commencé à enregistrer Millau, Chabrier, Poulenc, et puis j'avais quand même eu des diapasons d'or. Comme quoi j'avais quand même, il y avait une certaine réponse pour Chabrier, pour Poulenc. Après j'ai enregistré l'intégrale de la musique de chambre de Poulenc. Et puis ces disques avaient quand même une réponse. Je sais pas si beaucoup de gens les ont achetés, mais ils avaient quand même, il y avait, dans Diapason, dans le monde de la musique à l'époque, l'ancêtre de Classica, et puis peut-être même sur France Musique, des gens qui étaient sensibles à ce travail-là. Puis je pense que c'était assez surprenant qu'un jeune pianiste enregistre ses compositeurs plutôt que d'enregistrer. Quand on est jeune, on a envie d'enregistrer les grandes œuvres. Et moi, je pensais que c'était pas, non, que j'avais pas là ma place. Par contre, enregistrer des compositeurs que je voulais vraiment défendre, bec et ongle, et dont certaines œuvres n'avaient pas ou très peu été enregistrées, là, j'avais mon utilité. Je trouvais mon utilité. Et donc, je continuais dans cette musique française. J'ai enregistré du Paul Lamiro, j'ai enregistré le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns. Alors ça, c'est connu, mais ça m'avait
fait... Reynaldo Hahn aussi.
Reynaldo Hahn, le quintet de Reynaldo Hahn.
Le quintet de Reynaldo Hahn.
Qu'est-ce que c'est beau. Et là, voilà, j'ai voulu creuser un sillon. Mais après, il y a eu d'autres sillons qui se sont creusés tout seuls. Alors si je regarde ma discographie avec le recul que je peux avoir obligatoirement après 40, je crois que je suis à 44 disques, 45 disques, je vois que ces compositeurs se croisent, ils reviennent, ils repartent, et puis ça crée une construction. Ce n'est peut-être pas une grande cathédrale, mais c'est une construction. Il y a des murs, des bases solides, et peut-être même un toit et des fenêtres et une porte, mais avec des matériaux différents de plusieurs époques. Mais tous se dialoguent. Et quand j'ai enregistré du Couperin, je n'étais pas très éloigné de mes... J'ai consacré 3 disques à Frédéric Chopin, mais Chopin était un fou de Couperin. Et on ressent ce lien-là quand on enregistre Couperin. Donc... Et alors, on a... Évidemment, et je m'y attendais, on m'a mis dans des cases. Quand je jouais de la musique française, ben, elle était... Après, quand j'ai enregistré 3 disques Chopin, j'étais désigné presque naturellement comme légitime spécialiste de Chopin. J'ai enregistré plusieurs disques consacrés à la musique baroque française, J'ai aussi consacré 3 disques à Jean-Sébastien Bach, 3 disques à Schubert. J'ai fait de la musique contemporaine. Mais pour moi, c'était une même famille.
Thank you.
quintet en fa mineur de Reynaldo Hahn avec le quatuor Parisi et Alexandre Tarot au piano. Alexandre Tarot qui a évoqué son amour pour la musique française et la musique quelque peu délaissée. C'est comme ça, disait-il, qu'il se sentait utile. On reparlera de musique française avec Alexandre Tarot demain à 13h dans les grands entretiens sur France Musique. Et on parlera de cette grande figure qu'était Madeleine Millot et qu'il a très bien connue. Alexandre Tarot, donc, c'est demain à 13h et toute la programmation de cette émission sur francemusique.fr. Merci à l'équipe du jour, Gilles Blanchard, Cédric Chatelus, Céline Tronouvelle et Georges Thau.
À réécouter sur francemusique.fr.